Nous allons lire dans Genèse 2, 24 d'abord. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. C'est le livre qui donne le commencement des choses, commencement de l'univers, commencement de l'humanité et de l'histoire entre Dieu et l'homme. Et nous lisons dès le départ, puisque nous sommes dans le premier livre, au chapitre 2, donc le chapitre après la création, nous lisons 2, 24. Oui, ancien.
Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme voilà. Et sa femme étaient tous...
Non, on peut s'arrêter là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, nous voyons que dès le deuxième chapitre, donc dès le départ, Dieu institue le mariage. Donc c'est la première institution avant Israël, hein, avant même l'Église aussi. Dieu, dans cette humanité, une institution fondamentale qu'il installe juste après la création, c'est le mariage. C'est pourquoi nous retrouvons le mariage dans toutes les sociétés sans que les gens se soient consultés. On comprend par là que nous sommes issus d'un même Dieu qui nous a créés. Et autrefois, nous venions tous d'Adam. Donc l'humanité a été créée à partir d'un seul homme, puisqu'il y a des pratiques comme le mariage que Dieu institue juste après la création qui se déteignent sur tous les humains sur la terre. Le mariage donc est important aux yeux de Dieu pour que dès la création, il institue ça. Si quelqu'un ne le comprend pas, il n'a qu'à ouvrir les yeux pour voir. Que le jour des mariages, c'est des jours spéciaux où des gens même qui ne se sont pas rencontrés depuis longtemps peuvent se voir, peuvent se saluer. C'est des jours spéciaux dans la préparation. Les gens mettent beaucoup d'efforts pour cela. Mais pourquoi ? Pourquoi ça doit être un jour spécial ? C'est parce que Dieu a mis ça dans le cœur de l'homme que c'est un jour important. Il y a beaucoup d'événements sur la terre. Mais pourquoi le mariage est si important? Pourquoi on y met tant d'efforts? Pourquoi on y consacre tant de dépenses? Parce que dans l'homme, Dieu a placé l'importance du mariage. C'est quelque chose qui vient de Dieu. On a lu Genèse, chapitre 2. Nous allons lire aussi le Nouveau Testament. Un chapitre 2 aussi, Jean chapitre 2, lorsque le Fils de Dieu vient sur la terre. On a vu Dieu le Père créateur instituer le mariage dans Genèse chapitre 2 et dans le commencement aussi de l'œuvre de Jésus. Quand est-ce que Jésus commence à se montrer comme étant le Fils de Dieu, le Créateur, le Messie? L'envoyé tout-puissant de Dieu, quand est-ce qu'il commence à le montrer? Nous lisons Jean chapitre 2, on va s'arrêter là, on va s'arrêter.
Jean chapitre 2, trois jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, « qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Amen. On nous dit bien, ça a été le premier miracle de Jésus. C'est dans un mariage à Cana où il transforme l'eau en vin. Et il y a des chrétiens à notre époque qui ont déjà vécu aussi ce miracle dans des coins où il n'y a pas de vin. Ils ont pris de l'eau, ils ont prié, ça s'est transformé en vin. Jésus est vivant, il continue toujours à agir. Mais ça, ce n'est qu'une parenthèse. Mais la compréhension qu'on doit mettre, qu'on doit prendre, c'est que le mariage est important aux yeux de Dieu parce que le premier miracle de Jésus, il le fait dans un mariage. C'est important. C'est pourquoi nous voyons Satan faire tout pour diminuer l'importance du mariage à travers le concubinage, à travers le pax, à travers les divorces. Voilà, les divorces commencent à être monnaie courante parce que Satan est derrière, parce qu'il veut casser le mariage qui est une institution divine. Il veut inspirer d'autres formes de liens, union libre ou tout ce qu'on veut. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas biblique. C'est démoniaque, la polygamie. Parce que là, c'est écrit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. La polygamie, c'est démoniaque. Ça détruit la vie des gens. Moi, je suis issu d'une famille où mon père était polygame et j'ai vécu la destruction de la famille à cause de ça, comment les gens souffrent. Et tout ça, c'est parce que Satan ne veut pas du mariage, parce que le mariage, c'est l'institution divine, c'est la stabilité de Dieu, c'est la pensée profonde de Dieu. Ce n'est pas juste pour que les hommes vivent bien, ce n'est pas juste pour que les hommes se multiplient, pas du tout. Il y a un autre objectif, plus profond, plus important, que nous retrouvons dans Apocalypse, au chapitre, on voit bien le parcours, hein. Premier livre, mariage en action. Premier livre, les premiers livres du Nouveau Testament, mariage encore. Et nous arrivons au dernier livre de la Bible. On va encore retrouver le mariage là-bas. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 5. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 5.
Apocalypse 19, à partir du verset 5. Et une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
Amen. Il me dit, l'ange dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin du mariage de l'agneau. Les noces, c'est aussi le mariage. Heureux ceux qui sont appelés au mariage, au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Mais la réalité, c'est quoi? Nous qui sommes déjà mariés et d'autres, la réalité, c'est que le mariage n'est pas la solution sur la terre. On l'a vu. Quel que soit le niveau de la fête, la réalité vient après. Et on se rend compte que ça ne résout pas tous nos problèmes. Ce n'est qu'une image que Dieu a voulu nous donner en avant-goût de la préparation du grand mariage qui vient. Le mariage entre les sauvés, ceux qui ont cru en Jésus et leur Dieu. C'est ça le grand mariage qui nous attend. C'est écrit « Heureux ceux qui feront partie de ce mariage-là ». Parce que le mariage d'ici-bas, même si il peut produire de la joie, sa joie est limitée. Sa joie a des limites. Sa joie ne peut durer tout le temps. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments compliqués. D'ailleurs, on voit combien, environ 40% des mariages aujourd'hui aboutissent au divorce. C'est la preuve que le mariage de la terre n'est pas la solution. Mais alors, pourquoi c'est si important? Parce que il est l'image du grand mariage à venir. Donc il serait décevant d'oublier la réalité et de prendre l'image. Tu prends l'ombre, mais tu ne saisis pas la réalité. L'ombre, ça va te faire quoi? L'image, ça va te faire quoi? C'est comme si tu prends la photo d'une voiture, tu amènes à la maison avec la joie. Mais cette photo-là ne va pas se transformer en voiture. C'est la voiture qui est importante. Le mariage d'ici-bas n'est qu'une photo du grand mariage à venir entre les sauvés et le Dieu qui les a créés. Dieu nous a créés avec amour pour qu'on soit toujours avec lui. Mais à cause de l'orgueil, nous avons voulu être comme son égal. Nous nous sommes rebellés contre lui. Alors, il y a eu rupture. Il y a eu rupture. Il y a eu séparation. Au début, l'homme était innocent. Il ne connaissait pas le mal. Il était avec Dieu, on peut dire involontairement. Il était avec Dieu naturellement. Il n'y avait pas d'alliance. Il connaissait que le bien, il connaissait que Dieu. Naturellement, il était avec lui. Ce n'était pas un mariage. C'était comme si tu es uni avec ton bras. C'est naturel que ton bras et toi soient unis. C'est naturel que ta jambe soit rattachée à ton corps. Mais lorsqu'il y a eu le péché, il y a eu séparation. Du coup, Dieu a commencé à préparer le retour qui allait se clôturer par un mariage. Parce que le mariage, c'est l'union volontaire de deux personnes. Il n'y a pas une imposition. On ne s'impose pas. On propose et l'autre accepte. La relation que Dieu avait avec l'homme avant, ce n'était pas un mariage. C'était une relation naturelle, une relation involontaire. Je t'ai créé, tu ne connais que moi. On est ensemble. Mais lorsqu'on a proposé à l'homme, par le diable, de se rebeller contre Dieu, de devenir Dieu lui-même, il a accepté. Ça a dégénéré, et voilà les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et Dieu, à travers les mariages d'aujourd'hui, il veut nous rappeler qu'il nous veut pour le grand mariage. Il veut vivre avec nous éternellement, mais cette fois-ci, par un choix réciproque. Lui, il a déjà tendu la main, il attend qu'on lui tende notre main. Cette fois-ci, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas naturel. C'est un choix qu'on doit faire. C'est pourquoi on appelle ça le mariage de l'agneau, les noces de l'agneau. Parce que nous, nous devons dire oui. Ce n'est pas comme si on avait un bras qui est avec nous naturellement. Non, là, le bras doit être rattaché par sa volonté. C'est le mariage qui nous attend plus tard. Ça demande que l'on choisisse. Mais pourquoi ne pas choisir ça? Qu'est-ce que ce monde nous rapporte? Pourquoi rejeter Dieu? Pour gagner quoi? Je ne demande à personne de me suivre ni de suivre une église quelconque, mais de suivre Dieu par son Fils Jésus en vue du grand mariage à venir. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la solution. Nous le savons, surtout nous qui avons un certain âge. C'est le grand mariage à venir qui est la solution. Là où il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de disputes, il y aura une union totale dans la paix et la joie. Alors il ne faut pas se méprendre. Et c'est l'avertissement que Jésus va nous donner dans Luc 17, au verset 28.
Luc, chapitre 17, verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr.
On peut commencer au verset 26.
Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera ce Seigneur ?» Il répondit, « Où sera le corps ? Là s'ensembleront les vautours. »
Là, c'est Jésus qui nous prévient, qui dit, « Il est en train de revenir. Il va revenir pour juger les hommes sur la terre. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et nous rendrons compte de ce que nous avons fait de nos vies auprès de Dieu. » Jésus dit, comme du temps de Noé, les gens seront encore distraits. Parce que quand Dieu a dit à Noé qu'il allait détruire la terre à cause de la méchanceté des hommes, Noé a annoncé cela aux humains pendant 100 ans. Il leur a dit, Dieu va envoyer le déluge, une pluie de 40 jours, afin de détruire l'humanité à cause du mal, à cause du péché, à cause des guerres, à cause de la violence, de la haine. Ceux qui veulent une vie différente, suivez-moi, nous allons entrer dans l'arche pour être protégés. Les gens n'ont pas cru en Noé. Et Jésus dit à cette époque-là, au verset 27, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Les gens prenaient à la légère les avertissements. C'est la même chose aujourd'hui. Tu n'es pas spécial, toi qui prends à la légère ce que je dis. Ce n'est pas nouveau. Du temps de Noé, il y a des gens qui avaient pris à la légère les avertissements. Et on a vu ce que ça a donné. Du temps de la Deuxième Guerre mondiale, on prévenait les Juifs, surtout par les enfants juifs. Ils prévenaient leurs papas, leurs parents. Ils disaient, l'atmosphère n'est pas bonne avec Hitler. Quittons l'Allemagne. Mais les parents, ils étaient des professeurs à l'université, des docteurs, des avocats. Ils n'ont pas voulu écouter leurs enfants qui leur disaient, cette fois-ci, ça va être différent. Fuyons l'Allemagne, fuyons l'Autriche. Ils ne voulaient pas quitter leur villa, leur maison. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Ils ont été maltraités comme des animaux. Et on en a tué 6 millions parce qu'ils n'ont pas écouté les avertissements. Aujourd'hui encore, nous sommes en train d'avertir tout homme que Jésus revient pour juger l'humanité. Les signes sont là. On peut être toujours distrait. On peut penser que c'est la parole d'un homme. Pourtant, nous venons de lire ça dans la Bible. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et Jésus dit, malheureusement, les gens vont prendre le mariage à la légère. Ils vont boire, manger, marier leurs enfants, se marier eux-mêmes. Et le jugement va tomber sur eux. Au lieu que le mariage soit un enseignement pour eux, soit une préparation pour le grand mariage, c'est devenu une distraction pour eux. Oh, le mariage, c'est l'enseignement de Dieu pour dire, il y a un grand mariage. Mais ce mariage-là demande à être prêt, demande à choisir la vérité, le salut par Jésus. Sinon, on n'en fera pas partie. Les gens continuent à murmurer, à parler, comme s'ils avaient affaire à des hommes. Mais Dieu dit dans sa parole, ce n'est pas étonnant, puisque du temps de Noé, ils étaient distraits. Du temps de Lot, ils étaient distraits. Et aujourd'hui encore, certains seront distraits encore. Mais n'empêche que nous devons leur dire la vérité, parce que l'apôtre dit, prêche en toute occasion, favorable ou non. Nous devons dire la vérité, parce que seule la vérité peut sauver. Peut-être qu'il y a un qui va sortir de la distraction pour venir à la vérité pour être sauvé. Nous avertissons encore comme Noé avait averti. Le mariage n'est pas une distraction, c'est une image du grand mariage qui nous attend. Est-ce que tu es prêt pour ce grand mariage? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as laissé Jésus te sauver du péché et te donner une nouvelle vie? C'est ça la question. Dieu nous appelle aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur, nous venons prier afin que par ta parole, tu touches ceux qui pouvaient être encore dans la distraction, ceux qui pouvaient être encore dans la légèreté par rapport au mariage, considérer que ce n'est qu'une fête, considérer que ce n'est qu'une réunion de famille. Aujourd'hui, tu nous dis que c'est toi qui as mis le mariage, pas comme une distraction, mais comme l'image du grand mariage à venir. Le mariage volontaire entre les humains et toi, parce que les humains et toi, on a connu la séparation d'avec toi, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous rappelles que tu nous aimes et tu veux te marier avec nous. C'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés et nous venons te dire oui pour les noces de l'agneau. Prends nos vies, Seigneur. Prends ma vie et fais de moi ton serviteur. Que je sois prêt pour les noces de l'agneau, que je ne me laisse pas distraire par les soucis de manger et de boire, mais que je sois, à chaque fois qu'il y a un mariage, que je me rappelle des noces de l'agneau et que je m'y prépare davantage. Merci Seigneur de parler à nos cœurs. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Ô Dieu.